Nous sommes sur le site de Pêche-Merle, où il y a la grotte, mais il n'y a pas que la grotte. Il y a aussi tout ce qu'il y a autour, donc un film visionnable qui fait à peu près une vingtaine de minutes, plus un musée, un nouveau musée qui a été refait l'année dernière, par vous-même d'ailleurs, et à mon avis toute votre équipe. Monsieur Bertrand Defoy, bonjour.
Bonjour.
Dites-nous, qu'est-ce que vous faites ici comme métier? Vous avez quelle fonction à la grotte du Pêche-Merle?
Alors, je suis le conservateur. Et je m'occupe de tout ce qui est conservation, conservation de la grotte, mais également conservation des collections qui se trouvent ici au musée. C'est un musée reconnu par le ministère de la Culture, Musée de France. Et on conserve là la principale collection de préhistoire du département du Lot. On a à peu près 400 sites archéologiques qui sont conservés dans nos réserves.
Vous devez être fier de votre travail accompli ces deux dernières années avec ce nouveau musée. On a vu qu'il était très apprécié par les visiteurs et par les professionnels.
Oui, l'an dernier, c'était le centenaire de la découverte des peintures. Et à cette occasion-là, on s'est dit qu'il fallait quand même donner un petit coup de neuf à ce musée qui n'avait pas bougé depuis le début des années 80. Donc on a repris toute la muséographie de ce musée. Alors, c'est un musée qui reste quand même assez modeste. Il n'y a que deux salles d'exposition. La première salle présente toute la préhistoire de la région. Ça raconte 350 000 ans d'occupation humaine, depuis les Néandertaliens jusqu'aux Gaulois. Et puis la seconde salle approfondit un petit peu l'art pariétal, l'art préhistorique que l'on a ici dans notre région du Quercy, qui est extrêmement riche en la matière. Et effectivement, on a complètement repris la présentation des collections, ce qu'on appelle la muséographie, et tout l'aspect didactique, donc comment présenter la préhistoire au public. Et puis le résultat semble plutôt pas mal parce qu'il est apprécié à la fois par les visiteurs mais également par les chercheurs qui viennent nous visiter de temps en temps.
Alors parlons de la saison, de cette saison 2023. Comment ça se passe après une situation qui a été compliquée avec le Covid? Là on est vraiment en pleine reprise. Ça se passe bien? J'avais cru entendre que le mois de juillet avait quelques coups de mou qui n'étaient pas prévu ou ni anticipé, mais que là, ça reprend vraiment de plus belle.
Oui, c'est vrai que alors la saison a très bien commencé. On a ouvert là le 1er avril. Dès le départ, on a eu une très bonne fréquentation pendant les vacances de Pâques. Et puis ensuite, il y a les week-ends à rallonge là, du mois de mai qui se sont succédés. On a eu une très, très belle fréquentation. Et habituellement, les années avant Covid, on avait une bonne fréquentation. Enfin, on arrivait à notre quota maximum pour l'accueil des visiteurs de la grotte aux alentours du 15 juillet, 14-15 juillet. Et là, c'est vrai que ces derniers jours, c'était un peu plus faible que les années d'avant Covid. Donc c'est un peu curieux, oui. Normalement, on devrait être complet, mais ce n'est pas le cas tous les jours. Mais là, vu les réservations qui sont annoncées pour les semaines à venir et pour le mois d'août, on est rentré dans le dur de la saison, quoi.
Alors, vous êtes limité, d'après ce que j'ai compris, par le ministère de la Culture à un nombre de visites particuliers. Pourquoi ?
C'est pour la conservation des dessins de la grotte. En fait, il est impératif que l'on préserve l'équilibre naturel, et notamment l'équilibre climatique de la cavité. Et pour ça, il faut limiter le nombre de personnes qui viennent nous visiter chaque jour. Donc on a un seuil qui nous est imposé, et que l'on s'impose également à nous-mêmes, parce qu'on souhaite quand même préserver la grotte. On est toujours un petit peu sur un équilibre entre conservation et médiation, entre accepter du public et ne pas en accueillir trop pour ne pas dégrader la grotte.
Alors, quel est cet équilibre? J'avais cru que c'était 700 personnes par jour. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez venir visiter, ne venez pas à l'improviste, réservez vraiment vos places sur le site internet. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce site internet?
Alors, le site internet, c'est pêchemerle.com, tout simplement. Et effectivement, il est impératif de réserver sa venue pour visiter. Parce que sans réservation, il y a de fortes chances pour que vous ne puissiez pas visiter, parce qu'on sera complet et on ne pourra pas accueillir davantage de visiteurs. Donc, oui, réservation par internet impérative.
Alors, j'avais cru comprendre que la situation actuelle de la grotte, elle avait été complètement déjà visitée et explorée de fond en comble. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est vraiment une étude qui se passe, c'est-à-dire vous étudiez un petit peu l'évolution de la grotte, l'humidité, etc. À quoi servent tous ces instruments qu'on a vus pendant la visite ?
Alors, c'est vrai que d'un point de vue archéologique, l'ensemble de la cavité a été étudié. L'ensemble des peintures ont été relevées, étudiées précisément. Et ça, c'est l'important travail qui a été fait par le chercheur Michel Laure-Blanchet, qui est un préhistorien du CNRS. Donc de ce côté-là, il n'y a plus grand-chose à faire, en tout cas dans l'état actuel des connaissances. Ça ne nous empêche pas d'accueillir quand même toujours des chercheurs qui travaillent sur l'art préhistorique et qui viennent quand même revoir et revoir à nouveau les dessins de Pechmerle pour pouvoir mieux les connaître. Mais depuis 6-7 ans maintenant, on accueille régulièrement une équipe de chercheurs qui travaille plutôt sur les aspects de conservation. C'est-à-dire qu'on essaye de comprendre le fonctionnement naturel de la cavité, sur les écoulements d'eau, sur la présence d'hygrométrie, sur tous les paramètres de température qui nous permettent de mieux comprendre en fait quel est le fonctionnement naturel de la cavité. Et ça, le but, c'est de trouver toujours le meilleur équilibre entre conservation et présentation et ouverture au public.
Alors vous m'avez parlé d'un endroit un petit peu mystérieux qu'on verra tout à l'heure dans la suite de cette interview. Il y a des dessins dans cette grotte, à part bien sûr les magnifiques dessins de mammouths, de bisons, de pas de vachettes, vous disiez que c'était des... Comment vous appelez ça déjà ?
Des aurochs.
Des aurochs, tout à fait. On a pu aussi voir un dessin d'être humain qui a été interprété comme un être humain blessé, transpercé par des flèches, des signes et des gravures aussi, une gravure d'ours et des signes aussi d'ours avec des petits nids, comment vous appelez ça déjà ?
Des bauges.
Des bauges, tout à fait. Il y a une partie mystérieuse au sein de la grotte du Pechmerle avec des chimères. Dont on parlera tout à l'heure, mais vous les avez vus, peut-être en vrai, vous les avez vus en vrai peut-être. Pourquoi ils se cachaient pour faire ces dessins-là et pourquoi les autres ne sont pas cachés ?
C'est difficile de répondre à cette question. En fait, c'est tout l'art pariétal, tout l'art préhistorique qui s'est déroulé en Europe entre 35-36 000 ans jusqu'à il y a 15 000 ans à peu près, donc on a à peu près 20 000 ans, où les humains vont dans les grottes pour faire des dessins. Et tout ça revêt un côté très mystérieux. On constate qu'il y a des figures qui ont été dessinées, principalement des animaux. On a pas mal de signes géométriques, des signes abstraits qui ont été réalisés, mais on n'est pas en mesure de donner une signification, de donner une interprétation à ces dessins. Et peut-être qu'au final, il n'y en a pas qu'une. Il peut y avoir plusieurs interprétations, en fait, à ces dessins. Le fait de dessiner un bison il y a 30 000 ans n'a peut-être pas la même signification que de dessiner un bison il y a 15 000 ans. On est sur des échelles de temps qui sont extrêmement longues. Hein. Vous voyez, nous, on est dans une société occidentale qui a à peu près 2500 ans d'histoire depuis l'Antiquité. Là, on parle de cultures préhistoriques qui se sont succédées pendant 20 000 ans. 20 000 ans. Et qui n'avaient pas l'écriture, qui étaient sur des cultures orales. Donc, toutes ces figures restent très mystérieuses. Mais on a tendance à penser aujourd'hui qu'une grotte avec des dessins, c'était sans doute un lieu sacré. À l'époque de la préhistoire, c'est pas n'importe qui rentrait, c'est pas n'importe qui faisait des dessins. Et on le voit, les dessins sont de très bonne facture, de très bonne qualité. Les dessinateurs ne faisaient pas de retouches, ne corrigeaient pas les figures qu'ils dessinaient. Donc ça veut dire que c'était dessiné d'un seul jet. C'était des personnes qui maîtrisaient parfaitement bien leur coup de crayon. Quant au choix des motifs, au choix des animaux qu'ils ont représentés, ce ne sont pas tous les animaux qui les entouraient qu'ils représentaient. C'était certains animaux, plutôt des grands herbivores, qui étaient dans leur environnement. Ce n'étaient pas les animaux qu'ils chassaient, parce qu'à cette époque-là, les animaux qu'ils chassaient, c'était surtout le renne. Et nous, on n'a pas de représentation de renne, et il y en a relativement peu dans l'art préhistorique. Donc, en fait, ils ont représenté des animaux qui devaient avoir une signification pour eux, et le choix de représenter ces animaux et pas d'autres, le fait de ne pratiquement pas représenter d'êtres humains, ça revêt sans doute des préoccupations spirituelles. Alors après, pour aller plus loin, c'est plus difficile. Quelles étaient leurs croyances? Quelles étaient leurs spiritualités? Quelles étaient leurs mythologies? Ça, aujourd'hui, on est incapable de le dire. Il y a toujours des chercheurs qui travaillent là-dessus. On essaye de proche en proche, comme ça, de faire des hypothèses. Et des fois, on avance des hypothèses d'interprétation, puis on peut revenir en arrière en se disant « ben non, ça ne peut pas être ça pour telle et telle raison ». Donc, tout au long du XXe siècle, depuis qu'on a identifié l'art préhistorique, il y a eu différentes hypothèses apportées. Et puis, ces hypothèses ont été battues en brèche par de nouvelles hypothèses qui les ont remplacées. Mais aujourd'hui, voilà, on a plutôt tendance à croire que c'est lié à une forme de croyance que les préhistoriques avaient. quel était le type de croyance, quelle était la signification des dessins. Ça, aujourd'hui, on est incapable de répondre à ces questions.
D'accord. Alors, pour nos auditeurs qui nous écoutent et qui aimeraient savoir quel est votre endroit préféré de la grotte de Peshmerga, l'endroit où vous allez souvent, peut-être pour vous ressourcer, ou alors seulement celui que vous préférez, peut-être la fresque avec les chevaux, je ne sais pas.
La fresque avec les chevaux, c'est un des summums de l'art pariétal. Donc effectivement, ça reste toujours époustouflant de voir ces figures-là, et surtout dans un état de fraîcheur, dans un état de conservation qui est quand même étonnant. Hein, il faut vraiment dire qu'à Peshmerga, on a des dessins qui sont parfaitement bien conservés, vu leur âge. Les figures les plus anciennes sont aux alentours de 30 000 ans. 30 000 années que ces dessins sont là. Non, je n'ai pas d'endroit en particulier. Je trouve que tout est émouvant, que ce soit des empreintes de mains, que ce soit des empreintes de pieds également, que l'on voit dans la grotte. Quand on va dans cette cavité, on se trouve à l'endroit où d'autres humains étaient. Donc on est géographiquement proche d'eux. On se trouve au même endroit qu'eux sont venus, sauf qu'il y a 30 000 ans qui nous séparent. Et ça donne un petit peu le vertige, quoi. Ça donne un petit peu... Ça donne un petit peu le tournis. Ils vivaient ici, dans une région qui est la même que celle que l'on voit aujourd'hui. La topographie était la même, mais le climat n'était pas le même. Donc on n'avait pas la même végétation, on n'avait pas les mêmes animaux. Il y avait des mammouths qui étaient ici dans le Lot. Il y avait des aurochs, il y avait des bouquetins, il y avait des rennes. Voilà, tous ces animaux-là que l'on ne retrouve plus aujourd'hui. Donc ce sont des gens qui ont habité chez nous, ou nous on habite chez eux plutôt, sauf que c'est tout l'environnement qui a changé. Et ça, du coup, ça met en perspective notre culture d'aujourd'hui, notre société d'aujourd'hui, et ça nous rend très humbles par rapport à notre occupation de la planète, surtout quand on voit les problèmes qui se posent sur la préservation de l'environnement. Ce que je trouve passionnant, en fait, quand on plonge dans la préhistoire, c'est qu'on se retrouve, ça nous met face à un miroir par rapport à notre monde d'aujourd'hui. Voilà. Et ça, je trouve que c'est très enrichissant et ça soulève plein de questions.
On aura peut-être l'occasion de soulever toutes ces questions-là parce que je sens que ça vous passionne. Pour finir, vous me disiez qu'une visite à Peshmerga, c'est en moyenne 2 heures. Vous pouvez manger sur place, vous pouvez aussi acheter des choses. Il y a une boutique. Peshmerga, c'est combien de temps pour le prendre du bon côté, j'allais dire, de la visite, pour prendre vraiment le temps d'apprécier et de s'incorporer dans l'histoire de la vie humaine et dans la préhistoire? C'est combien de temps Peshmerga?
Il faut compter au moins 2 heures. Au moins 2 heures, parce que la visite de la grotte, c'est déjà 1 heure. On a un film en salle de cinéma qui montre les dessins de la grotte, et certains dessins que l'on ne voit pas d'ailleurs. Et ça a été réalisé par le chercheur qui a étudié les peintures de la grotte. Ça fait à peu près 25 minutes, 20-25 minutes. Et puis on a les 2 salles d'exposition, on peut facilement y passer 1 demi-heure, donc c'est au moins 2 heures. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'en extérieur, il y a une chronologie, on la devine depuis ici. On a une grande chronologie qui fait 40 mètres de long et qui raconte les 500 derniers 1000 ans de présence humaine. Donc on remonte grosso modo à l'homme de Totavel et ça va jusqu'à aujourd'hui. Donc sur cette chronologie, il y a également la période de l'Antiquité, la période historique. Et tout ça, c'est à l'échelle. Sur cette chronologie-là, 1 mètre égale 12 500 ans. Et donc quand on parcourt cette chronologie-là, on survole en fait 500 000 ans. Et on voit les innovations technologiques que les humains ont réalisées au cours de cette période-là. Alors il y a des périodes où il n'y a rien du tout. Il s'est passé 100 000 ans où il n'y a pas d'innovation particulière, ou en tout cas on n'a pas retrouvé la trace. Et puis on voit que les choses s'accélèrent sur la fin. Et à partir de 40 000 ans, on a énormément d'innovations techniques, technologiques. On a l'apparition de l'art, et puis on a l'architecture, etc. Donc on a là un survol de l'occupation humaine, de la présence humaine dans la région, puis en Europe d'une manière générale. Et puis on a des ateliers pour les familles aussi, en extérieur, où on pratique les gestes de la préhistoire. Comment on peut produire le feu? Quelles étaient les différentes techniques pour la chasse? Quelles étaient les différentes techniques utilisées pour faire de l'art? Donc voilà, on a ces activités-là qui se font 3 fois par semaine pendant l'été. Et donc là, ça permet d'approfondir et de mettre en pratique des gestes qui datent du paléolithique.
Il y a d'autres ateliers, je dirais, comme ça, où on peut faire des choses, ou c'est les seuls?
Ah ben ici, on en a 3. La chasse, le feu et l'art. Super. On a les 3 à faire ici. pour les adultes, mais également pour les enfants.
D'accord. Et on vous invite aussi à visiter le musée qui a été refait l'année dernière. Bien, Monsieur Defoix, je vous remercie pour tout ce qu'on a fait ensemble, la visite et cette interview-là sur le site de Pêche-Merle. Et je vous invite bien sûr à aller sur le site internet de Pêche-Merle pour réserver ses places. Vous pouvez venir aussi, on peut venir réserver sur le site, mais bon, ça fait venir Defoix, c'est un peu bête. C'est bien de venir et de visiter directement parce que ça vous donne envie. Il y a toute une atmosphère, vraiment, on vous baigne dans toute une atmosphère préhistorique avec cette magnifique fresque que j'ai pris en photo tout à l'heure quand on est arrivé, ben, la fresque des chevaux, moins bien faite, j'allais dire, que celle d'en bas.
Oui, mais justement, cette fresque-là a été faite par un artiste lyonnais qui fait du street art et qui fait en fait des peintures dans les villes, à la bombe. Voilà, alors, ce ne sont pas des tags, hein, mais du coup, il y a une parenté, il y a une filiation entre les dessins que l'on retrouve dans la grotte qui ont été faits sur les parois de la grotte, et puis aujourd'hui, cette pratique principalement urbaine de l'art de rue, en fait, où on utilise des murs, des façades, ben, pour faire des représentations. Donc on s'inscrit toujours dans cette filiation depuis l'art préhistorique.
Je vous dis merci beaucoup et à bientôt à Pêche-Merle.
À bientôt, avec plaisir.